Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, le Suicidé de la société, de Antonin Artaud. Van Gogh, le suicidé de la société, est un essai d'Antonin Artaud. À l'occasion de l'exposition consacrée à Vincent Van Gogh par le musée de l'Orangerie en janvier-mars 1947, Antonin Artaud rédige cet essai dans lequel il remet en cause la folie de Vincent Van Gogh et rend hommage à son œuvre picturale. Le galériste Pierre Loeb suggère à Antonin Artaud, sorti l'année précédente de l'asile de Rodez, où il était enfermé depuis plusieurs années, d'écrire sur ce peintre. Antonin Artaud ne semble pas convaincu, dans un premier temps, de l'intérêt d'un tel essai. Mais la parution d'un ouvrage d'un psychiatre, François-Joachim Baer, intitulé « Du démon de Van Gogh », le scandalise. Le 2 février 1947, il visite l'exposition. Et les jours suivants, il rédige cet essai « Van Gogh, le suicidé de la société », qui sort en librairie en décembre 1947. Pour Antonin Artaud, Van Gogh n'est pas fou. Il est au contraire d'une lucidité hors du commun, une lucidité qui ébranle les certitudes de son époque. Entrant en conflit avec la société dans son ensemble, il vit un exil intérieur et une exclusion, ce qui le conduit au suicide, après s'être brûlé la main et coupé l'oreille. Antonin Artaud montre comment, à travers l'exemple de Gérard de Nerval, la société tente d'étouffer ceux qui révèlent cet art. Van Gogh révèle d'insupportables vérités, notamment la définition du fou par les psychiatres. Antonin Artaud a passé 9 ans en institution psychiatrique. En 1943, il dénonce les méthodes de la psychiatrie sous le pseudonyme d'Antonin Laplace, un double qui dénonce les méfaits des asiles comme l'électrochoc. Sa folie, lucide, peut-être créatrice, questionne la légitimité de la psychiatrie. Antonin Artaud est né le 4 septembre 1896 à Marseille. Il est issu d'une famille bourgeoise aisée, avec des racines maltaises, arméniennes, vénitiennes, grecques et françaises. Son père, Antoine Roy Artaud, capitaine au long cours, et sa mère, son cousin Germain. Dans sa jeunesse, la famille Artaud le fait suivre rapidement par toutes sortes de médecins en Suisse ou ailleurs. Dès l'enfance, Antonin Artaud présente des troubles nerveux. Dans les années 1920, ses parents, qui vivent à Marseille, le confient au docteur Toulouse, directeur de l'asile de Villejuif. Artaud a 14 ans lorsqu'il fonde avec ses camarades du collège du Sacré-Cœur de Marseille une petite revue où il publie ses premiers poèmes inspirés de Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Edgar Poe. Artaud a commencé à arpenter les expositions parisiennes en même temps qu'il commençait à rencontrer des gens importants du monde du théâtre, parce qu'il voulait aussi devenir comédien. Il s'intéresse au mouvement Dada et découvre les œuvres d'André Breton, Louis Aragon et de Philippe Soupeau. Il rencontre Max Jacob qui l'oriente vers Charles Dullin. Dullin l'intègre dans sa compagnie en 1921. Là, il rencontre Genica Athanasiou dont il tombe amoureux et à laquelle il écrit un grand nombre de lettres réunies dans le recueil « Lettres à Genica Athanasiou » avec 2 poèmes. Leur passion orageuse va durer 6 ans, jusqu'en 1922. Déçu par le théâtre qui ne lui propose que de petits rôles, Antonin Artaud espère du cinéma une carrière d'une autre envergure. Toujours par l'intermédiaire de son cousin, Artaud rencontre Abel Gance et sympathise avec lui, au grand étonnement de l'entourage du cinéaste réputé d'accès difficile. En 1935, il apparaît deux ultimes fois dans Lucrèce Borgia d'Abel Gance et dans Cunnes Marg de Maurice Tourneur. Antonin Artaud a tourné dans plus de 20 films sans jamais avoir obtenu le moindre premier rôle, ni même un second rôle d'importance. Ayant quitté Dulin, Artaud rejoint la compagnie de Georges et Ludmila Pitoeff, installée à la Comédie des Champs-Élysées. Il fonde le théâtre Alfred Jarry en 1927, qui définit une conception nouvelle de l'art dramatique. Il mène de front ses activités littéraires, cinématographiques et théâtrales, mais il a cependant déjà la tête ailleurs. En 1931, il assiste à un spectacle du théâtre Baliné présenté dans le cadre de l'exposition coloniale. Il rencontre ensuite Louis Jouvet et Jean-Louis Barrault. En 1936, Artaud part pour le Mexique. Dès son retour en France, il retrouve sa fiancée, Cécile Schramm, qu'il avait rencontrée en 1935. La jeune fille appartient à la bourgeoisie belge, son père est directeur des tramways de Bruxelles et sa mère, une riche héritière flamande. Le 23 septembre 1937, Antonin Artaud est arrêté à Dublin pour vagabondage et troubles de l'ordre public. Il est transféré, sous placement d'office, à l'hôpital psychiatrique Les 4 Mars de Sotteville-lès-Rouen. De 1938 à 1947, il passe 9 ans dans plusieurs hôpitaux psychiatriques qui lui appliquent les traitements de l'époque, comme les électrochocs, épouvantablement violents. Il n'a jamais cessé d'écrire, et notamment des correspondances où il se dit envoûté, comme l'avait été aussi Van Gogh, Baudelaire, critiquant la psychiatrie et ses méthodes. En novembre 1942, Robert Desnos, poète surréaliste et résistant, prend contact avec le docteur Gaston Ferdière, ami de longue date des surréalistes et médecin-chef de l'hôpital psychiatrique de Rodez en Aveyron, situé en zone non occupée. Les démarches aboutissent et Artaud sera transféré le 22 janvier 1943. Il y restera 3 ans, jusqu'au 25 mai 1946. À Rodez, le docteur Gaston Ferdière, un des pionniers de l'art-thérapie, accordera immédiatement beaucoup d'attention à Antonin Artaud. 1945 est l'année de la renaissance créatrice de l'auteur. Inlassablement, il écrit. Le sujet de ses textes est toujours la question de notre théâtre à inventer. Les amis d'Artaud obtiennent qu'il sorte de l'asile de Rodez et retourne à Paris dans une clinique ouverte, celle du docteur Delmas, à Ivry. Antonin Artaud décède le 4 mars 1948, probablement victime d'une surdose d'hydrate de chloral. Il est enterré civilement au cimetière parisien d'Ivry par le cercle de ses amis. Sa famille fera transférer ses restes près de 30 ans plus tard, en avril 1975, au cimetière Saint-Pierre à Marseille. La peinture linéaire pure me rendait fou depuis longtemps, lorsque j'ai rencontré Van Gogh qui peignait, non pas des lignes ou des formes, mais des choses de la nature inerte, comme en pleine convulsion. Et inerte. Comme sous le terrible coup de boutoir de cette force d'inertie dont tout le monde parle à mots couverts et qui n'est jamais devenue si obscure que depuis que toute la terre et la vie présentes se sont mêlées de l'élucider. Or, c'est de son coup de massue, vraiment de son coup de massue, que Van Gogh ne cesse de frapper toutes les formes de la nature et les objets. Cardés par le clou de Van Gogh, les paysages montrent leur chair hostile, la hargne de leur repli éventré, que l'on ne sait quelle force étrange est, d'autre part, en train de métamorphoser. Une exposition de tableaux de Van Gogh est toujours une date dans l'histoire, non dans l'histoire des choses peintes, mais dans l'histoire historique tout court. Car il n'y a pas de famine, d'épidémie, d'explosion de volcans, de tremblements de terre, de guerre qui rebroussent les nomades de l'air, qui tordent le cou à la figure torve de Fama Fatum, le destin névrotique des choses, comme une peinture de Van Gogh. sortie au jour, remise à même la vue, l'ouïe, le tag, l'arôme, sur les murs d'une exposition, enfin lancée à 9 ans dans l'actualité courante, réintroduite dans la circulation. Il n'y a pas dans la dernière exposition Van Gogh au palais de l'Orangerie toutes les très grandes toiles du malheureux maître. Mais il y a parmi celles qui sont là assez de défilés giratoires constellés de touffes de plantes de carmin, de chemins creux surmontés d'un if, de soleils violacés tournant sur des meules de blé d'or pur, de pères tranquilles et de portraits de Van Gogh par Van Gogh, pour rappeler de quelle sordide simplicité d'objets, de personnes, de matériaux, d'éléments Van Gogh a tiré ces espèces de chants d'orgue, ces feux d'artifice, ces épiphanies atmosphériques, ce grand œuvre, enfin, d'une sempiternelle et intempestive transmutation. Ses corbeaux peints, 2 jours avant sa mort, ne lui ont, pas plus que ses autres toiles, ouvert la porte d'une certaine gloire posthume. Mais ils ouvrent à la peinture peinte, ou plutôt à la nature non peinte, la porte occulte de l'au-delà possible, d'une réalité permanente possible à travers la porte par Van Gogh, ouverte d'un énigmatique et sinistre au-delà. Il n'est pas ordinaire de voir un homme, avec, dans le ventre, le coup de fusil qui le tua, fourré sur une toile des corbeaux noirs, avec en dessous une espèce de plaine livide peut-être, vide en tout cas, où la couleur lie devin de la terre s'affronte éperdument avec le jaune sale des blés. Mais nul autre peintre que Van Gogh n'aura su comme lui trouver pour peindre ses corbeaux ce noir de truffe, ce noir de gueuleton riche et en même temps, comme excrémentiel, des ailes des corbeaux surpris par la lueur descendante du soir. Et de quoi en bas se plaint la terre sous les ailes des corbeaux fastes, fastes pour le seul Van Gogh sans doute, et, d'autre part, fastueux augure d'un mal qui, lui, ne le touchera plus. Car nul jusque-là n'avait comme lui fait de la terre ce linge sale, tordu de vin et de sang trempé. Le ciel du tableau est très bas, écrasé, violacé, comme des bas côtés de foudre. La frange ténébreuse insolite du vide montant d'après l'éclair. Van Gogh a lâché ses corbeaux comme les microbes noirs de sa rate de suicidé à quelques centimètres du haut et comme du bas de la toile, suivant la balafre noire de la ligne où le battement de leur plumage riche fait peser sur le rebrassement de la tempête terrestre les menaces d'une suffocation d'en haut. Et pourtant, tout le tableau est riche. Riche, somptueux et calme le tableau. Digne accompagnement à la mort de celui qui, durant sa vie, fit tirnoyer tant de soleils ivres sur tant de meules en rupture de banc et qui, désespéré, un coup de fusil dans le ventre, ne sut ne pas inonder de sang et de vin un paysage, tremper la terre d'une dernière émulsion, joyeuse à la fois et ténébreuse, d'un goût de vin aigre et de vinaigre taré. C'est ainsi que le ton de la dernière toile peinte par Van Gogh est, lui qui, d'autre part, n'a jamais dépassé la peinture, d'évoquer le timbre abrupt et barbare du drame élisabétain, le plus pathétique, passionnel et passionné. C'était la chronique littéraire de Gilles Labouroir. À bientôt.